Bonjour à tous. Merci donc d'être avec nous ce soir pour cette rencontre avec Pénélope Bagieu à l'occasion de la sortie de Sacrée Sorcière chez Gallimard Bande Dessinée. Merci beaucoup, Pénélope, d'être avec nous ce soir. Bonsoir.
Bonsoir. Déjà.
Bonsoir.
Bonsoir, ça fait une voix très...
Génial.
Très chaleureuse. Très...
J'adore, c'est trop bien, on ne tient pas de micro, c'est cool.
Pour ramener chez soi. Ouais. Je le disais, on vous reçoit à l'occasion de la sortie de Sacrée Sorcière chez Gallimard Bande Dessinée, qui est donc une adaptation d'un roman de Roald Dahl. Je pense qu'on est très nombreux ici à avoir grandi avec Roald Dahl, avec ses histoires, avec Mathilda, Charlie et la chocolaterie, Le Bon Gros Géant, James et la Grosse Pêche. Je pense qu'on a chacun son livre préféré de Roald Dahl, qu'on a lu et relu et re-relu. Pourquoi avoir choisi, quand on vous a proposé d'adapter un roman de Roald Dahl, pourquoi avoir choisi Sacrée Sorcière? C'était le roman qui vous a marqué quand vous étiez petite?
C'était mon Roald Dahl préféré, ça l'est toujours d'ailleurs. C'est celui qui m'a laissé le souvenir le plus fort. C'est-à-dire, même si il y avait des pans de l'histoire qui étaient un peu confus, je me souvenais pas de tout. Je me rappelle tellement nettement d'avoir été terrorisée, d'avoir pas pu le reposer avant d'avoir fini, d'avoir été d'être complètement paralysée en le lisant, tellement ça m'avait fait peur. Certaines scènes, notamment, qui m'avaient vraiment traumatisée, que ça me paraissait déjà être une très bonne thérapie. Et en plus de ça, je me souvenais quand même que c'était que de l'action, que c'était vraiment une course-poursuite, toute l'histoire, que les personnages étaient hyper hauts en couleur, que les sorcières étaient incroyables. Et pour moi, c'était vraiment une BD toute prête, quoi. C'est-à-dire, j'adore les autres romans de Roald Dahl. Évidemment, j'adore Mathilda, mais ça s'y prête moins. Vraiment, Sacrée Sorcière, c'est fait pour être une BD. C'est super simple, du coup, adapté après.
On va parler de la façon dont vous l'avez justement adapté en bande dessinée. Vous parlez d'action. Les cadrages sont extrêmement importants dans Sacrée Sorcière et ce qui donne du dynamisme. On est effectivement en permanence avec les personnages et en train de souffler avec eux aussi et vraiment de passer les pages et de plus pouvoir s'en passer avant d'avoir terminé. Mais vous évoquiez les personnages hauts en couleur. Ça a été une des premières choses à laquelle vous vous êtes attelé, réussir à créer ces personnages, parce que j'imagine que vous aviez en tête à la fois les souvenirs que vous aviez enfant, les nouveaux souvenirs que vous vous étiez créés en le relisant, peut-être aussi les dessins de Quentin Blake. Comment est-ce que vous avez créé ces personnages, les sorcières, bien évidemment, le personnage principal, et puis cette grand-mère absolument extraordinaire, qui, je crois, est inspirée de votre propre grand-mère. Voilà, comment est-ce que vous avez créé ces personnages, les personnages de cette aventure?
C'était hyper facile, en fait, d'adapter les personnages, parce que quand je le lisais, j'avais des personnages en tête, c'était très clair, comme tout le monde, en fait. Et finalement, j'étais assez peu... marqué par les dessins de Quentin Blake pour ce livre-là en particulier, parce que je trouve que c'est peut-être celui dans lequel il a le moins mis son empreinte. C'est-à-dire, pour moi, par exemple, Mathilda, ce sera toujours la Mathilda de Quentin Blake. Je pourrais jamais l'imaginer autrement que brune avec une petite frange et des grands yeux. C'est la Mathilda de Quentin Blake. Alors que les dessins des sorcières m'avaient moins marqué. Et puis, en fait, c'était assez facile parce que, bon, j'imagine qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ont lu le roman. Et la grand-mère, par exemple, dans le roman, c'est clairement la grand-mère de Roald Dahl. Il n'y a pas du tout de mystère autour de ça. Elle est immense comme lui. Elle est à moitié norvégienne. Enfin, c'est sa grand-mère à lui. Et je pense que c'est le fait qu'il parle de sa grand-mère à lui qui fait qu'il arrive à transmettre autant l'impression de tendresse que lui évoquait sa grand-mère. Elle a l'air tellement protectrice, tellement infaillible. Et je savais que si j'essaie de dessiner ça comme ça, brut, ça marcherait pas du tout. Et que si je voulais moi aussi transmettre cette même impression, il fallait que je parle de ma grand-mère à moi, parce que c'est ce qu'elle m'évoque. Vraiment une femme hyper bizarre mais rassurante, qui a toujours été que tendre, même si elle était un peu brusque et qu'elle me griffait un peu avec ses ongles, mais elle était vraiment tellement gentille et tellement douce, et elle m'appelait avec plein de petits noms d'animaux et de pâtisseries tout le temps, et que si je voulais réussir à recréer le fait qu'on s'attache à la grand-mère dans mon livre à moi aussi, il fallait juste que je parle de la mienne. Et en fait, j'ai tout fait comme ça, c'est-à-dire ce petit garçon... Pareil, il a fallu que je me dise, en fait, c'est moi le héros de 8 ans. Moi, j'avais 8 ans quand j'ai lu le roman. Donc, c'était très facile de me souvenir ce qui m'avait fait peur dans le livre et de le réinjecter cette fois-ci. Et en fait, je me suis vraiment j'ai juste fait remonter à la surface les émotions que j'avais eues en lisant le livre enfant. Et j'ai vraiment essayé de me remettre dedans pour le dessiner. Et du coup, tout est venu assez simplement, en fait.
et vous aviez la chance donc d'avoir une grand-mère quand même avec des caractéristiques qui se prêtent au dessin. Parce que cette chevelure, ces bijoux, ce rouge à lèvres, c'est un personnage exceptionnel.
Elle était exceptionnelle. C'est vrai qu'elle aimait beaucoup les imprimés animaliers, une passion qu'elle m'a transmise d'ailleurs, qu'elle avait toujours 30 000 bagues, qu'elle prenait trop le soleil,
qu'elle ratait un petit peu ses couleurs.
On ne s'en rend pas compte dans le livre, mais aussi elle sentait très fort le parfum. Voilà. Elle faisait pareil, 1m12, c'était vraiment le même modèle, mais j'avais vraiment l'impression, comme le héros, que quand j'étais avec elle, il pouvait rien m'arriver en fait. Donc je pense que c'est la clé de ce livre, c'est que ce petit garçon se rend compte qu'en fait les adultes ne sont pas du tout toujours bien intentionnés, qu'en fait c'est même pas comme dans les contes où à la fin les gens gagnent toujours. En fait non, parfois les gentils ne gagnent pas. Et les adultes ne sont pas toujours sympas avec les enfants, mais on peut compter sur ceux qui nous aiment très fort et qui nous aimeront toujours quoi qu'il arrive, qui nous aiment même si on change d'apparence et qui sont voilà, qui ont un amour vraiment inconditionnel. Donc, voilà.
Et il va falloir déjouer les pièges de la grandissime sorcière et de toutes les sorcières qui veulent donc tout simplement
les exterminer
tous les enfants, exterminer en toute simplicité. Vous disiez, tout s'est fait extrêmement naturellement dans l'adaptation, dans la réappropriation des personnages et de l'histoire elle-même aussi, puisque c'est une adaptation, c'est un album de Pénélope Vallier. Vous y avez injecté des choses aussi personnelles qui n'étaient pas dans l'histoire de départ. Par exemple, on ne le voit pas ici, mais on peut le voir sur la couverture dans le roman de Roald Dahl, ce petit garçon a un copain. Ici, c'est une copine qu'il se fait. Il y a aussi l'idée qu'on ne peut pas aujourd'hui écrire un album de bande dessinée avec le mot sorcière sans expliquer qui était appelée sorcière. Comment est-ce que vous avez finalement... Comment est-ce que vous êtes réapproprié le roman de Roald Dahl en injectant tout ce que vous êtes aussi, ce qui fait qu'aujourd'hui, oui, c'est une adaptation d'un roman de Roald Dahl, mais c'est aussi pleinement un album de Pénélope Bagieu.
En fait, j'ai essayé d'imaginer que je racontais l'histoire à quelqu'un qui l'avait jamais entendu. Et du coup, je raconte bien ce que je veux, en fait. Voilà. Et du coup, y a des choses qui sont naturelles et qui restent les mêmes. De toute façon, il fallait aussi que ça se passe aujourd'hui et pas dans les années 80. Et même s'il y a assez peu de détails qui donnent un indice sur l'époque dans le roman, je trouve que les enfants sont plus les mêmes, en fait. Les enfants de maintenant sont confrontés à tout de suite beaucoup plus de réalité et on met beaucoup plus de pression sur leurs épaules et ils sont obligés d'être des enfants encore moins longtemps que nous les vieux. Et en fait, je me disais, voilà, un enfant de maintenant qui a le même départ que cet enfant-là, c'est-à-dire quand même ça démarre par ses parents meurent et il se retrouve à vivre avec sa grand-mère qui sait absolument pas s'occuper d'un enfant. Donc on est quand même déjà bien dans une plongée, dans une réalité compliquée. Mais il va pas réagir comme un enfant aurait réagi à 30 ans. Le monde n'est pas le même. Et puis, du coup, c'est vrai qu'il y avait ce copain qui se fait normalement au cours de l'histoire. Mais en fait, ce personnage m'avait même pas marqué dans le roman quand j'étais petite, tellement j'ai pas accroché avec ce personnage, il m'apportait rien. Et du coup, je me suis dit que j'allais le dégager en fait, puisque j'ai bien le droit. Et j'allais le remplacer par un autre personnage qui servait mieux mon histoire à moi. Parce que je voulais que une des choses qui m'a toujours peinée dans Sacrée Sorcière, bizarrement, beaucoup plus que ce qu'il arrive au héros au milieu du livre, je ne veux pas vraiment complètement spoiler, mais. Bon, il lui arrive un truc assez impressionnant au milieu de l'histoire. Et c'était pas ça qui me peinait le plus. Moi, c'était qu'il avait pas de copains. Et je me souviens, quand j'étais petite, je me disais, mais quelle horreur, il est tout seul avec sa grand-mère, il a pas de potes. C'est le truc que je trouvais le plus triste. Et donc, je voulais que cette amie qui se fait au cours de l'histoire, ce soit vraiment, vraiment une super pote. Que ce soit, qu'on ait vraiment envie d'être copain avec elle. Et du coup, je me suis dit, ben, on va mettre une fille, hein, tant qu'à faire. Et il n'y en a pas, donc on va en mettre une. Et je voulais que ce personnage de fille soit suffisamment chouette pour que les garçons et les filles qui lisent l'histoire puissent avoir envie de s'identifier à elle et leur proposer une alternative, leur dire le héros est super cool, mais si tu veux, il y a aussi cette fille à côté qui est super cool aussi. Après, tu fais ce que tu veux, tu t'identifies à qui tu veux. Et donc, je voulais qu'elle soit vraiment très courageuse, parce qu'il en faut vu l'histoire, mais qu'elle soit aussi très bonne, qu'elle soit vraiment très empathique, qu'elle soit drôle. Qu'elle soit pas drôle à ses dépens, qu'elle soit drôle en étant vraiment porteuse de comédie, qu'elle ait une vraie histoire, qu'elle ait des vraies bonnes idées qui aident l'intrigue à avancer, enfin que ce soit une héroïne quoi. Et donc j'ai rajouté cette héroïne. Et effectivement, pour le petit aparté historique que j'ai rajouté au début, c'était parce que je me suis dit quelle merveilleuse occasion d'expliquer aux enfants que pendant très longtemps on a persécuté les femmes sans raison, juste parce que c'était une société extrêmement misogyne. Donc voilà, j'explique aux enfants les grandes lignes de ce qu'est le patriarcat. Et, comment le combattre et surtout dire, voilà, à une époque, les femmes qui étaient autonomes, puissantes, qui s'affranchissaient du pouvoir, bon, ben, on les a persécutées pendant très longtemps. Et le petit garçon dit à sa grand-mère, toi, mamie, qui est libre, forte, qui vit seule, qui a ses connaissances à elle, qui est un peu, parfois un peu à la ramasse aux yeux de la société. En fait, à une époque, t'aurais été considérée comme une sorcière. Et elle lui dit, bah oui, parce qu'elle est super, elle a une espèce de puissance très bienveillante, comme ça, de sorcière, en fait.
Et je parlais...
Et voilà, c'est ça.
C'est ça,
la avec la mamie qui danse nue avec le diable, comme on disait de ces femmes-là autrefois, voilà.
Non, c'est vrai que...
Et vous voyez, j'ai montré qui étaient les gens qui avaient persécuté les femmes vers la droite, mais je n'ai pas donné de nom. J'ai juste dit, c'était des gens voilà. qui portaient des robes de bure. Je ne sais pas ce qu'ils faisaient dans la vie, voilà. Donc en plus, je ne dénonce même pas les coupables. Hein. Je reste très vague. Enfin, on comprend. Voilà.
Tout à l'heure, j'évoquais les cadrages qui sont extrêmement importants dans l'album et marquants. Ça a été un réel enjeu aussi quand vous parliez, on parlait tout à l'heure du dynamisme de l'histoire, de l'action en permanence. Et justement, avec ce grand changement également que vous avez évoqué, qui arrive au milieu de l'album, qui change le point de vue. Oui. Voilà, ça a été un réel enjeu de conserver cette émotion que vous aviez plus jeune d'action permanente à travers le dessin. Et donc là, ça passe effectivement par ces cadrages qui font que
C'est pas un enjeu, honnêtement, c'est plutôt un plaisir, en fait.
Ouais.
C'est que je savais, en commençant à raconter cette histoire, que ce qui allait être vraiment super, c'est que j'allais faire ça. Parce que je me suis dit, ça va aller dans tous les sens, ça tombe par les balcons, ça grimpe dans les tiroirs, ça escalade des escaliers. Enfin, je savais que ça allait être vraiment une mise en scène hyper vive et que j'allais avoir que de l'action pure. Et c'était vraiment... J'avais hâte, en fait, de le dessiner. Et c'était super. Et puis, quand on dessine de la BD, on est obligé de vivre ce qu'on dessine dans sa tête ou carrément physiquement, le mimer pour voir...
Oui, j'ai lu que vous imitiez les personnages.
Bah, tout le monde, en fait. Tous les dessinateurs font ça. On fait des têtes et...
on dessine parce qu'il faut... Pour celle-là, essayer d'imaginer Pénélope avec...
ah ouais, j'ai... Non, pour ça, j'ai... Mais si, pour le petit qui a peur, voilà, il faut le mimer, quoi. Et du coup, honnêtement, mimer les souris, c'était vraiment un régal. C'était génial. Et me dire... Mais comment elle peut attraper une fiole avec sa queue et en même temps monter une marche? C'était génial, vraiment, c'était super cool à dessiner. Et
ça a changé votre rapport à ces animaux?
Et moi, je suis pas... Ouais, alors c'est marrant, j'ai eu une souris en plus pendant que j'étais en train de le faire à la maison, que j'ai pourchassée pendant hyper longtemps, et j'ai fini par la choper. Et elle était sous un verre, et tout d'un coup, j'ai beaucoup d'empathie pour elle, parce que je me suis imaginée de l'autre côté de la barrière, et je me suis dit, mais elle doit avoir si peur, la pauvre.
Et ça vous a permis de... De la regarder tous les ans.
Ça m'a aussi permis de la regarder. Mais ça m'a... Et du coup, je l'ai relâchée. Je me dis, va vivre ta vie. Je l'ai relâchée très loin de la maison.
Cet album, si je ne me trompe pas, vous avez mis 18 mois à le réaliser, 6 mois environ d'écriture et un an de dessin. Vous avez partagé, notamment sur les réseaux sociaux, aussi l'album en cours de création. Mm-hmm. Vous l'avez réalisé à l'iPad. Mm-hmm. C'était pour une solution aussi parce que vous étiez souvent en déplacement. Qu'est-ce que ça vous a permis en fait, de le faire entièrement à l'iPad?
Alors, le fait que j'ai passé toute une année à vivre dans un avion, en gros, c'est vrai que j'étais quand même contente d'avoir, dès le début, choisi de le faire sur iPad. Mais c'est pas pour ça que j'ai fait ça, c'est parce que j'avais vraiment bien aimé. J'avais fait une BD avant qui s'appelle California Dreaming au crayon à papier. J'avais adoré le rendu, je trouvais que c'était vraiment super agréable, même si c'est un peu cracra. C'est-à-dire que faire une BD au crayon, c'est vraiment être condamné à avoir les mains dégueulasses, de la laque partout, bref. Bon, ça fait partie du truc, mais et je m'étais dit, c'est dommage, parce que ce traité vraiment très presque crayonné, avec un peu charbonneux, où le dessin et les lignes ne sont pas vraiment arrêtées, j'aimais vraiment bien ça. Et au même moment, je connaissais plein d'auteurs qui commençaient à bosser sur iPad, qui me disaient tous... Alors qu'ils savent que je suis réticente à la technologie. mais vraiment, je t'assure, ça va te changer la vie. Essaye. Et en fait, c'était tellement simple que je me suis dit, ah, mais je peux faire du crayon sans crayon, c'est trop bien. Mmh. Et c'est vrai que ça m'a bien servi que je puisse travailler n'importe où, puisque j'ai travaillé n'importe où, vraiment, littéralement, pendant presque un an et demi. Ouais.
Une autre chose qui est marquante dans l'album, et c'est lié à l'iPad également, mais ce sont les couleurs de cet album qui sont très flashy, qui ont un caractère très joyeux aussi, ce qui fait que même dans les passages un petit peu qui pourraient faire très peur, les couleurs quelque part viennent aussi un petit peu rassurer le lecteur. Comment est-ce que vous avez travaillé ces couleurs? Comment est-ce que vous les avez pensées?
Je voulais que... En fait, il y avait des ambiances colorées pour chaque lieu. Je savais que je voulais que l'hôtel soit vraiment un endroit grandiose mais cheap, que ce soit vraiment Las Vegas sur la côte anglaise, quoi, avec des arbres en plastique et là, vraiment un truc très suranné, et que du coup on serait très dans le doré, le bronze, les choses comme ça, et puis le vert un peu sale de la mer en Angleterre. Et du coup, c'était évident que le petit garçon et sa grand-mère, il fallait qu'au milieu, ils flashent vraiment pour ressortir de ça. Donc, puis la mamie, elle a un peu une gamme colorée imposée, quoi. De toute façon, elle est orange, elle a les cheveux violets, elle est toujours habillée en fluo, donc voilà. Et les sorcières, gros travail de perruque, c'est vraiment, ouais. Je pense là-dessus que j'ai le plus... je crois que vraiment ce que j'ai fait le plus dans cette BD, c'est dessiner des perruques. Je suis devenue vraiment une experte perruque. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui ressemblent à des cannelés quand on les regarde de haut. C'est voulu. Je voulais vous dire hommage. Que c'est voulu. C'est un hommage, voilà.
Mais justement, comme vous parlez des sorcières, on évoquait tout à l'heure la façon dont vous avez créé le personnage de la grand-mère, notamment, et les sorcières. Comment est-ce que vous les avez pensées là aussi, puisque ce que vous vouliez, et notamment, on voit qu'il y a des grandes assemblées, puisque dans cet hôtel un peu cheap, il va y avoir donc un rassemblement de sorcières. On les voit toutes ici. Il y a aussi d'autres séquences où on les voit encore plus chacune dans le détail. Vous avez pris soin de bien toutes les travailler et que toutes ces sorcières existent. Comment est-ce que vous les avez pensées? Comment est-ce que vous les avez imaginées? Et notamment aussi la grandissime sorcière et cette transformation assez impressionnante quand, d'un seul coup, une fois la porte close, elle enlève sa perruque et elle devient réellement
elle
enlève la pas sorcière.
Sa perruque. Elle garde sa perruque, la grandissime.
Je trouve c'est ça vrai.
Encore plus horrible.
Mais en fait, visage déformé.
Oui, je voulais que les sorcières, elles aient le souvenir que j'en avais, qui était qu'elles étaient horribles et hyper flippantes, mais qu'elles avaient un côté un peu grotesque aussi, qu'elles étaient un peu nulles, quoi. Qu'on sent qu'elles n'y arrivent pas trop, qu'elles se font en plus engueuler par leur boss parce qu'elles bossent pas bien. Enfin, elles avaient un truc un peu, moi je les imaginais un peu gourdes, quoi. Un peu à se rentrer dans les pieds les unes des autres, à être un peu nulles en fait. Et je pense que ça aide beaucoup à dominer une peur aussi quand on est enfant, quand les choses qui sont terrifiantes en fait sont un peu ridicules et que les monstres en fait ils se mettent à pleurer ou à être un peu ou à avoir peur eux-mêmes de quelque chose. Donc, et la grandissime, Dalle l'a décrit en disant qu'elle est toute petite et adorable et qu'elle est très très mignonne, mais qu'elle a une tête vraiment bizarre. Et j'imaginais vraiment qu'elle était belle de manière très très bizarre et très dérangeante, c'est-à-dire comme quelqu'un qu'on trouverait beau, mais dès qu'on le regarde plus de 5 secondes, on se dit il y a un truc qui va pas quand même dans son visage, il y a un truc avec ses yeux, quoi. Et pour les sorcières qui sont donc des créatures magiques qui choisissent d'essayer de ressembler à des femmes pour duper les enfants, en fait, pour que les enfants se méfient pas d'elles. Je me suis dit, je voudrais qu'elles essayent de ressembler à des femmes, mais en fait, elles en ont jamais vu de leur vie, quoi. C'est-à-dire, elles ont vu un mode d'emploi de à quoi ressemble une femme, mais elles ont jamais vu une femme. Donc, elles se disent, bon, une perruque, mais c'est des perruques vraiment too much. Leur truc, on dirait des espèces de trucs de drag queen complètement. Ça ne marche pas. Leur tenue, pareil, elles ont des robes, mais complètement outrancières et un peu trop vieilles. Et personne ne s'habillerait jamais comme ça, quoi. Ce que je voulais, c'est qu'on se dise, elles veulent ressembler à des femmes, mais clairement, si on en rencontrait une, on verrait tout de suite que c'est pas une femme et qu'il y a un problème. Je voulais qu'elles soient un peu too much et un peu gauche, quoi. Et en même temps, quand même, qu'elles soient flippantes, parce que quand même, elles tuent des enfants. Donc, voilà. Et puis, elles ont aussi tout un. Je me gratte quand je la vois présenter. Je voulais aussi qu'elles
aient. Je voulais pas faire remarquer.
Non, mais moi, ça n'a rien à voir. C'est le stress. Elles ont aussi plein de caractéristiques physiques qui font qu'on voit bien que ce ne sont pas des femmes. Mais je ne peux pas non plus tout vous dire, parce que sinon, vraiment, je vous ai raconté tout le livre.
Mais justement, vous dites raconter tout le livre. J'imagine que certains d'entre vous ont déjà lu Sacrée Sorcière, l'album de bande dessinée. Le livre est sorti il y a quelques jours. Vous avez déjà rencontré pas mal de lecteurs. Qu'est-ce qui ressort justement de ces rencontres avec les lecteurs? Vous allez bien entendu pouvoir poser des questions à Pénélope, donc vous allez sans doute nous en parler aussi. Mais justement de cette idée j'imagine qu'il y a des lecteurs qui ont découvert l'histoire grâce à l'album, qui avaient peut-être aussi des parents qui partagent l'histoire qu'ils connaissaient avec leurs enfants. Voilà, quelle place occupe quelque part votre Sacrée Sorcière? Vous avez le sentiment chez les lecteurs qui viennent vous voir, est-ce que ça ravive justement les souvenirs de l'histoire pour eux? Est-ce que c'est cette idée de partage avec une autre génération?
Non, il y a un peu autant d'échanges que de gens, quoi. C'est-à-dire, j'ai une grosse partie de gens qui sont des gens qui ont lu Sacrée Sorcière quand ils étaient petits, qui avaient plus ou moins des souvenirs de l'histoire, mais pas toujours, qui se rappelaient qu'ils avaient eu peur, ça, tout le monde s'en rappelle très bien, en général, et qui étaient contents de le revoir, et puis ceux qui connaissaient bien l'histoire m'ont dit qu'ils avaient vraiment eu, à la fois ils avaient retrouvé l'histoire qu'ils connaissaient, mais qu'ils avaient lu autre chose, quoi. Donc j'étais contente parce que c'était un peu le but, donc voilà. Et les petits que j'ai vus, j'en ai vu pas mal, mais ils m'ont dit qu'ils...
Ils ont fait des chouettes dessins aussi.
Ils m'ont dit qu'ils avaient eu peur. Ouais. Et du coup, je suis super contente.
C'est gagné. Voilà. Parce que c'est ça, c'est que réussir à faire peur tout en étant ce qu'on disait tout à l'heure, avoir cette frayeur et en même temps ce côté réconfortant de il y a forcément quelqu'un, un adulte qui est là aussi pour t'aider, pour t'accompagner, réussir à le rendre avec une image, ce qui est différent du roman qui laisse place à l'imaginaire, c'était un sacré défi aussi. Est-ce qu'il y a des moments où vous avez dit oh là là, dans quoi est-ce que je me suis fourrée, ou est-ce que...
Non, franchement, non, c'était... J'ai pas trouvé de choses compliquées. C'est sincère, quoi. Il n'y avait pas eu de moment où j'ai peiné, où j'ai galéré sur ce bouquin, parce que c'était tellement... c'était tellement agréable à dessiner, c'était tellement chouette. Et comme je connaissais très bien l'histoire, je pouvais vraiment m'appuyer sur une histoire qui est validée à 4000% dans tous les... Enfin, c'est-à-dire que je ne me demandais pas, comme d'habitude, est-ce que la fin est bien, est-ce que ce n'est pas un peu chiant à tel moment. Je me disais, mais non, mais l'histoire, elle est parfaite. Ouais. Donc, j'ai qu'à me concentrer sur le rendre de ma manière à moi. Et j'avais tout le temps hâte de certaines scènes parce que je savais ce qui m'attendait et je me disais oh là là, la cuisine
ça va être trop bien,
on va se régaler, ça va être super. Et donc c'était plutôt ça l'idée.
Oui, et puis l'idée que qu'on prend du plaisir à le faire, souvent ça se communique en fait au lecteur.
Mais en tout cas, moi j'étais un peu tristounette quand je l'ai fini, c'est sûr.
Vous étiez encore avec les personnages.
Ouais, et puis c'était ma routine quand même, parce que je l'ai fait en peu de temps, donc j'ai quand même eu des bonnes journées et des bonnes nuits d'ailleurs aussi. Et c'était un peu ma vie pendant un an, j'ai fait ça. Puis du coup, quand ça se termine, je me suis dit
Ça, les lecteurs vous permettent aussi de continuer
un petit peu, prolonger la magie.
C'est personnel. Je regarde l'heure qui passe beaucoup trop vite et je ne voulais pas terminer cette rencontre avant de vous laisser la parole sans évoquer d'un mot les culottés, dont on va pouvoir découvrir les premiers épisodes de la série animée le 8 mars sur France 5. C'est une incroyable aventure que cette histoire des culottés, à la fois les surprises, j'imagine, de la réception dans tous les pays du monde, l'impact que ça a eu sur des personnes qui en témoignent, qui disent à quel point ça a été une révélation de découvrir ces culottés. Aujourd'hui, la série animée avec plein de talents qui ont travaillé à partir de vos dessins, à partir de vos culottés pour en faire des personnages animés. Quel est votre sentiment par rapport à tout ça? J'imagine que vous ne pouviez pas imaginer l'impact que ça aurait aujourd'hui de se dire que ça a un tel impact et qu'autant de personnes vous sont reconnaissantes aussi de leur avoir fait découvrir ces personnes, ces personnages, mais non, ces femmes. Quel est votre sentiment par rapport à tout ça? C'est émouvant, c'est excitant aussi, j'imagine, de se dire que tout le monde va pouvoir découvrir ces personnages animés.
Ouais. C'est super et je suis vraiment ravie. Et puis moi, je les ai découverts tardivement, les épisodes, et je les ai vus tous d'un coup. Donc j'ai bingé ma propre mon propre truc. Et c'était super parce que là aussi, c'est moi et c'est plus moi. Donc c'était ce qui a été apporté. Et en fait, il a fallu aller beaucoup plus loin que moi. C'est-à-dire qu'en animation, on peut pas avoir autant de choses. Approximative, des pans entiers de l'histoire qui sautent, pas de décor, tous ces trucs que moi je peux faire, toutes ces pirouettes qu'on peut faire en BD, on peut pas le faire en animation. Donc il y a eu un vrai travail de réécriture complète en fait des histoires par les scénaristes, les artistes qui ont travaillé dessus, les storyboarders, tous les artistes. En fait, je dirais bien les storyboardeuses parce que vraiment, je pense qu'à 90%, il y a vraiment que des femmes qui ont bossé sur ce dessin animé de A à Z. Donc ce qui était une volonté de la production, c'est pas du tout une coïncidence. Et c'est magnifique, vraiment, c'est super, ça m'a émue. J'ai eu l'impression qu'on me racontait une histoire que je connaissais pas, alors que Dieu sait que je la connais. Et donc j'étais vraiment très contente. Et là, c'est Cécile de France qui fait toutes les voix. Et le fait qu'elle fasse toutes les voix elle-même, exactement comme quand moi je l'écrivais, et que dans ma tête je me faisais toutes les voix. Et elle fait tout super bien. Et on oublie au bout de deux secondes que c'est elle qui fait toutes les voix. Quand elle fait un gros bonhomme, un petit enfant, elle fait tout. Et elle est parfaite, quoi. Donc je pouvais pas mieux tomber.
Et c'est effectivement assez impressionnant. Donc ce sont 30 épisodes de 3 minutes 30 à découvrir à partir du 8 mars sur France 5 et sur France.tv. Pour avoir eu la chance d'en voir quelques épisodes, je peux vous assurer que vous allez vous régaler, parce que c'est absolument incroyable. Et justement, l'idée d'avoir cette cohérence entre toutes ces culottées, avoir le même format et avoir ce qu'elles ont réussi, les scénaristes, à en dégager de l'enfance, du moment du déclic qui fait qu'on a une prise de pouvoir et de comment est-ce qu'on marque son temps, même si on n'est pas toujours reconnu pour l'avoir fait. C'est assez impressionnant. Et encore une fois, le travail à partir de vos dessins et tout l'univers qui est recréé autour, c'est absolument magnifique. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Pénélope. Merci.